Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Est-ce que vous vous demandez comment consommer mieux? Qu'est-ce que vous devriez changer dans vos habitudes alimentaires, mais aussi d'hygiène, de beauté? Comment mieux s'occuper de vos enfants? Et ben aujourd'hui, je reçois Marie Drucker et Sidonie Bonnec, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Naturel pour les meilleurs et pour le reste », qui donne plein d'astuces pour justement modifier ses habitudes de consommation au quotidien. Donc c'est une discussion très pratique que je vous laisse écouter. Allez Vlan, c'est parti.
Donc bonjour Marie, bonjour Sidonie.
Bonjour Grégory.
Vous allez bien?
Ça oui. Va et vous?
Eh ben ça va pas trop mal, ça va pas trop mal.
Mieux que la planète?
Sans doute mieux que la planète, mais en même temps la planète c'est un peu nous.
C'est vrai, vous avez 2 heures.
On la porte, enfin, elle nous supporte surtout. Mais bon.
Exactement. Ouais. Donc vous venez de sortir un bouquin qui s'appelle « Naturel pour le meilleur et pour le reste ». C'est ça? Je ne me trompe pas. C'est 2 ans d'enquête, 2 ans et demi d'enquête. Pourquoi vous avez fait ce bouquin, toutes les deux?
Alors, on a fait ce bouquin parce qu'avec Marie, bon, on est très connectés, on parle beaucoup et on parle beaucoup de notre vie quotidienne.
Ouais.
Et on s'est rendu compte qu'on finalement, la vie autour de nous et nous parfois aussi, on s'éloignait un peu de nos vies naturelles de l'enfance, ce qu'on avait pu vivre avec nos grands-parents ou nos parents. Et on s'est demandé un peu ce qui se passait. Et on s'est dit, et si on se reconnectait, et si finalement tous ces petits gestes naturels qu'on faisait au quotidien, parce que quand même, on essayait de sauver ça et de vivre, grâce avec l'arrivée de nos enfants, de vivre naturellement, et si on collectait ces infos et qu'on allait en chercher d'autres pour vraiment vivre au plus proche de notre santé, de la planète, de la nature. Et donc, on s'est dit, ben tiens, quand il nous manque un guide, en général avec Marie, ou des bons conseils, eh bien, on l'enquête, on l'écrit et on le sort. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne suit pas sans et haut. Mais bon, et voilà, c'est comme ça que ça a démarré, Marie.
Oui, parce qu'il y a eu 2 paramètres aussi. On s'est demandé... En fait, on est assaillis d'informations en permanence. Et j'ai le sentiment que nous sommes toujours soumis à des injonctions contradictoire. C'est-à-dire qu'on nous explique justement ce que disait Sidonie, que le sens de l'histoire, c'est d'aller... ça peut être un paradoxe, mais ça ne veut pas forcément dire un retour à la nature. Mais on va vers plus de santé, plus de bien-être. Tout le monde recherche ça, plus de bien-être et de santé pour nous, mais aussi pour la planète. Et toute la journée, on nous dit, mais attention, consommez, consommez, consommez plus. Et tout est tellement industrialisé, etc., que les gens sont en permanence, et nous l'étions aussi, coincés entre ces 2 injonctions. Donc on a essayé de démêler le vrai du faux, d'essayer de comprendre si le bien-être de la planète dépendait de nous, mais quand je dis de nous, c'est de nous deux. C'est-à-dire qu'au quotidien, individuellement, est-ce que nous avons le pouvoir d'aider la planète à rester ce qu'elle est, voire à aller mieux? Après, on pourra essayer de répondre à cette question.
Mais c'est la prochaine question.
Voilà, on s'est forgé quand même une opinion qui est que non, d'ailleurs, on ne peut pas y arriver tout seul dans notre coin en triant nos ordures, en consommant différemment, mais on y contribue. Mais après, bon, il y a évidemment une volonté politique et globale qui doit quand même intervenir, parce que on a aussi un peu tendance à beaucoup culpabiliser les citoyens, c'est-à-dire à mettre toute la responsabilité sur eux. Or, nous, on est convaincus que bah non, c'est pas que comme ça que ça doit se passer. Mais on en est venu à ce constat qu'il est impératif de consommer moins, donc de consommer mieux.
Et pour notre santé aussi, Marie.
Absolument. Santé.
Pas seulement pour la planète, même si, et pour évidemment, notre santé, c'est un effet positif.
Peut-être même en premier. Oui, peut-être même en premier, parce que Sidonie a raison. C'est-à-dire que nous, on est assez convaincus de ça depuis longtemps. Et évidemment, l'arrivée des enfants dans une vie de femme, de famille, fait qu'on se pose aussi des questions différentes, puisque tout est tourné vers sa progéniture. Que veut-on pour elle ? Le meilleur. Donc voilà, ça passe aussi par là.
Moi, j'ai la sensation que, en réalité, il y a un moment donné où plus tu consommes, plus ça te rend malheureux.
Alors ça, c'est vrai.
Donc... vas-y.
Plus de shopping.
Oui, non, mais je suis complètement d'accord, Grégory. Je me suis fait cette remarque-là. Quand j'étais jeune étudiante et que j'avais vraiment pas un sou à consacrer à l'achat de quoi que ce soit d'un peu futile, j'avais des envies. Je me disais, mais le jour où je travaillerai, je pourrais m'acheter ci et ça. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé, j'ai gagné un peu d'argent et j'ai commencé, je suis entrée dans ce système de consommation. Et j'avoue, je fais mon mea culpa, j'ai acheté et je voyais que plus j'achetais, et moins j'étais heureuse. En tout cas, j'étais pas heureuse. C'est pas ce qui me rendait heureuse. Et j'ai décidé de décroître, mais sans me dire, ah, attention, sans l'afficher, naturellement, toute seule, d'acheter beaucoup moins, de passer plus de temps avec les autres, avec ma famille, à créer des projets, à avoir des idées, à rencontrer des gens comme Marie. Et là, en fait, j'ai trouvé l'espèce de cercle vertueux merveilleux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est pas une leçon, et je suis pas une héroïne, mais c'est juste mon mode de vie, quand j'ai un vêtement double ou une casserole, on me donne une casserole dans la famille et j'en reçois une à Noël, et ben j'en offre une. Parce que je déteste avoir des choses en trop grande quantité. Et j'ai remarqué que moins on a de choses, par exemple dans sa penderie, dans son placard, même dans son réfrigérateur, et bien plus les choses sont précieuses et rares et plus on les savoure. Et le bonheur, il vient de là, du peu en fait.
Ouais. Y a un truc de Marie Kondo là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que...
Ah oui, la prêtresse du rangement et du pliage.
Mais moi, j'ai la sensation qu'en fait, tu n'achètes pas en fonction de tes besoins, tu achètes en fonction de la place que tu peux remplir. Donc plus tes placards sont grands, plus tu achètes.
C'est pas faux, ça.
Moi, alors que l'espace, c'est un luxe.
Qui t'offre des casseroles à Noël ? C'est juste ce que je voulais savoir.
Mais... Eh bien, maman Bonnec, hein, il faut le dire. Elle prend soin de sa fille, elle veut qu'elle cuisine.
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que, en fait, je me rends compte, pour ce qui me concerne, il y a 3 ans, j'ai décidé d'arrêter d'être journaliste pour me consacrer, aller plus vers la création d'entreprises, la création de films documentaires, l'écriture, etc. Et en réalité, j'ai remarqué que cette recherche de temps long et donc de profondeur s'est accompagnée avec le même genre de comportement dans ma vie quotidienne. Exactement la même chose, en fait. Moins, mais mieux.
Et on se sent mieux.
Mais tellement.
C'est vrai.
Mais moins, mais mieux, c'est notre credo depuis un certain nombre d'années, toi et moi. Ce qu'on veut faire comprendre avec notre guide, c'est d'abord surtout pas culpabiliser les lecteurs. Je dis les lecteurs parce que ce guide s'adresse vraiment aux familles, aux femmes, aux hommes, aux adolescents.
Et même aux célibataires, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, on ne veut pas culpabiliser, certainement pas donner de leçons non plus, mais dire, voilà, il y a des choses que vous pouvez changer du jour au lendemain, et c'est totalement indolore. C'est-à-dire que ça ne va pas... vous n'avez pas à avoir l'impression d'une espèce de dépression dans votre façon de vivre. Voilà, il y a des choses. Ça prend plus de temps, donc faites-le à votre rythme. Mais, en tout cas, notre conviction, c'est qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible.
Ça, c'est une certitude. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui me disent, mais qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire, qui n'arrivent pas, en fait, à trouver les clés. Alors, après, il y a plein de biais, et c'est un épisode que j'ai diffusé avec Albert Mukaiber qui explique tous les biais cognitifs qu'on utilise pour ne surtout pas changer, en fait, en réalité. Mais malgré tout, pour ceux qui veulent changer, qui se disent, par exemple, je prends un exemple bête du savon liquide versus savon solide, on sait tous que le savon solide, c'est quand même vachement plus écolo que le savon liquide. Simplement, je pense qu'on a tous dans nos mémoires que le savon solide, c'est quand même plus... Enfin, ça rend la peau un peu sèche. Et moi, par exemple, je cherche un savon solide et je n'ai pas trouvé le savon solide qui rend la peau sèche.
Grégory, je vais vous faire un petit conseil, un petit diagnostic. Un savon, un pain gras, vous voyez.
Ben, c'est ça.
Un pain gras, c'est plein de glycérine et donc ça ne sèche pas vos mains. Ou alors un savon saponifié à froid. Ça veut dire qu'on garde toute la glycérine du produit et vous ne retrouvez pas avec des tensioactifs qui vont vous faire des crevasses. Alors c'est vrai, au début, on est content, on achète son petit pot qui goûte très cher, transparent avec le savon liquide. Bon, c'est chouette, mais c'est vrai qu'un petit savon solide, ça dure plus longtemps et ça peut ne pas vous irriter les mains. Donc c'est un choix. Après, vous pouvez garder votre savon liquide aussi si ça vous fait plaisir. Il ne faut pas vous dépouiller de tout.
C'est un conseil, c'est cadeau.
J'aurais dû apporter un savon.
Non, mais on a quelque chose d'un peu schizophrène dans nos... dans nos comportements. C'est-à-dire que même nous qui avons écrit ce guide, qu'on connaît par cœur, il y a plein de domaines encore où on sait ce qu'il faut faire et on ne l'a pas encore appliqué dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on dit page, temps, il faut faire comme ci, comme ça, puis tout à coup, vous êtes chez vous en train de faire exactement le contraire. Vous dites, c'est quand même. Mais parce que c'est vrai ce que vous dites sur le changement. C'est pour ça que nous, on conseille vraiment de faire les choses très progressivement. En revanche, on donne les clés pour faire les choses comme ça du jour au lendemain sur certains points parce que ça se.
Par exemple, c'est pour ça, Grégory, oui, exactement, qu'on a chapitré en fait ce guide. On a un chapitre très simple, alimentation, soins du quotidien, maison, enfants, animaux de compagnie. Donc on balaye tous les domaines du quotidien et l'avantage, c'est comme le sommaire est très bien fait, qui a fait le plan Marie. Il est très très bien fait ce sommaire.
C'est pas moi.
C'est la reine du plan. Et donc, si vous voulez, en fonction de son mode de vie, de ses besoins, de ce qu'on a envie de changer, on peut circuler et arriver directement à ce qui nous intéresse. Par exemple, si on a envie de diviser sa facture produits ménagers et prendre soin de sa santé, on va au chapitre maison, on vous explique comment... Désolé pour l'industrie qui s'occupe de ça,
prendre
mais comment,
du vinaigre.
Voilà, non, mais comment ne plus dépenser 40 euros par mois, c'est vraiment pas raisonnable, en produits ménagers qui sont très mauvais, qui sont quand même nocifs pour les femmes enceintes, pour les gens allergiques, pour les enfants et puis pour tous les autres humains, les animaux de compagnie aussi d'ailleurs. Et comment acheter du vinaigre d'alcool, du bicarbonate de soude et du savon noir. On n'est même pas obligé d'avoir du savon noir. Et ça divise votre facture par 5. On donne les recettes, comment on les utilise, pour dégraisser quoi, nettoyer quoi. Alors ça fait un peu petit conseil de bonne femme, mais pas du tout, parce qu'on est tous obligés de laver notre maison. On est tous préoccupés, on est d'accord, par l'hygiène au moins minimum de notre appartement. Et on n'a pas envie de se ruiner. Et ça permet, franchement, ça par exemple, à vos amis ou les gens autour de vous qui veulent savoir comment faire un geste pour la planète, pour leur porte-monnaie et leur santé. Ça, c'est un principe de base qui coûte pas cher et qui est génial.
Et alors, j'imagine que vous avez testé le bouquin. Parce qu'en fait, sur ces 2 ans d'enquête, comment vous avez travaillé en fait? C'était quoi l'idée? Vous avez travaillé secteur par secteur?
Alors, il y a évidemment des domaines qui se sont imposés immédiatement, l'alimentation et les cosmétiques, ça c'est évident. Parce qu'en plus, ce sont de très très gros secteurs industriels.
Bien sûr,
et comme
sûr.
Par ailleurs, nous, je vais vous dire tous nos credos, il y a consommer moins mais mieux. Et puis, il y a aussi le fait que ça, c'est quelque chose qu'on a appliqué, nous. Moins c'est mieux. C'est pas tout à fait consommer moins mais mieux, c'est moins c'est mieux. Ça veut dire que moins vous avez d'ingrédients dans un produit, que ce soit un produit alimentaire ou un produit cosmétique, déjà vous avez fait un pas formidable. Donc on vous apprend aussi dans le livre à décrypter, à lire les étiquettes. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, il y a des règles, il y a des nomenclatures, il y a des dogmes en matière d'étiquetage des produits. Donc, au moins, on vous donne les clés pour acheter et consommer en connaissance de cause. Voilà. Mais on n'est pas du tout des ayatollahs, en plus, du bio, du tout vert, il faut changer votre vie radicalement. On n'est pas du tout comme ça. On dit juste, il faut faire les choses en connaissance de cause.
Ouais.
Par exemple, moi, je n'ai pas de produits alimentaires transformés à la maison, mais je n'interdis pas à mon fils d'en manger. Parce que je veux pas le marginaliser, le couper de voilà donc
il va chez McDo quoi.
Bien sûr, de temps en temps. Donc
et c'est vrai que pour ce guide avec Marie, ce qu'on a fait, c'est déjà on est parti d'un principe très simple. On s'est interviewé. Donc on a collecté tous nos bons plans à l'une et l'autre, tout ce qu'on faisait un peu naturellement, tout ce qu'on avait appris dans notre famille. Moi j'ai grandi notamment avec des grands-parents bretons qui étaient pêcheurs, qui avaient on mangeait que le lapin du jardin, oui. Il ne courait pas dans le jardin, il était dans les clapiers, mais bon, il y avait un potager, enfin, il y avait une culture chez moi du bien manger et du manger naturel. Et en fait, on a collecté toutes ces infos et à partir de là, déjà, ça nous faisait déjà pas mal de travail. On a vérifié auprès de spécialistes si c'était de bonnes infos, des bons conseils qu'on pouvait partager avec les lectrices et les lecteurs. Et en plus, on a commencé à explorer toutes les autres solutions. Donc, on a rencontré plein d'experts, et d'auteurs aussi qui parlent naturel, qui ont des expériences et qui permettent de nourrir un guide qui est quand même hyper complet. On ne donne pas juste nos trucs à nous parce que c'était pas suffisant. C'était pas mal, mais pas suffisant.
D'ailleurs, par exemple, dans l'alimentation, nous avions rédigé tout un chapitre sur le poisson.
Ouais.
C'était très compliqué puisque quand on a commencé il y a 2 ans et demi l'enquête sur le poisson, on s'est évidemment beaucoup documenté. On a interrogé, comme le disait Sidonie, des experts, des spécialistes, des scientifiques. Et puis, on était très contente de notre chapitre sur le poisson. Puis, 6 mois plus tard, il y a une enquête tout aussi sérieuse d'une revue tout aussi scientifique et sérieuse anglo-saxonne qui contredisait celle d'il y a 6 mois. Donc finalement, on en est venu à la conclusion que on n'était pas capable aujourd'hui on parle bien sûr du poisson dans le chapitre alimentation, mais de dédier un chapitre entier au poisson dans ce guide. On a décidé ça avec l'éditeur parce qu'en réalité, ça fait partie des domaines qui bougent en permanence. Mmh. On peut donner des informations qui auraient été obsolètes 6 mois plus tard.
Et c'est peut-être là aussi où
ça fait peur.
Que les gens sont perdus parce que on leur donne des informations contradictoires, donc ils savent plus très bien. En fait, ils ont l'impression qu'ils peuvent plus rien manger, quoi.
Mais
quelque
oui.
part.
Alors, c'est pour ça, pour rebondir sur le passage poisson, on a quand même pu établir une règle qui permet quand même de nous sauver la vie au quotidien, c'est de savoir qu'il faut toujours, c'est mieux de manger, de faire manger notamment à ses enfants, des poissons qui sont en bas de la chaîne alimentaire. Donc, c'est les petits poissons, le maquereau, la sardine, les anchois, le hareng. En fait, c'est des poissons qui sont très pauvres en métaux lourds. Et c'est ça qui nous empoisonne. Donc, déjà, quand on sait ça, voilà, on a déjà une règle de vie et d'hygiène de santé qui est déjà pas mal. Et c'est vrai que les choses changent, et c'est pour ça aussi que dans ce guide, et on en est très fiers, à chaque fois on le construit en 2 étapes. C'est-à-dire, première étape, les ingrédients nocifs, alors, par exemple métaux lourds dans les poissons. Donc ça, le lecteur et la lectrice, ils le savent, ils sont concernés, ils sont indépendants. Et si, et en dessous, on donne soit des marques, soit des labels, soit des produits qu'on peut consommer sans danger pour l'instant. Mais l'idée, c'est aussi d'indiquer ce qui ne va pas. Parce que comme ça, même si les lois changent, la qualité change, on sait ce qui ne va pas et on peut se débrouiller un peu tout seul aussi.
Et ce que tu disais, Marie, c'est intéressant. Parce que je pense que, moi j'ai eu cette conversation avec Isabelle Saporta, entre autres, et puis après Elisabeth la ville sur le localisme, mais le fait de cuisiner, tu disais, il y a aucun produit qui est transformé, qui est chez moi. Le fait de cuisiner, ça change énormément de choses, parce qu'en fait, t'es sur des produits qui sont, par définition, relativement simples. En fait.
Oui, et puis ça change la perception que l'on a aussi de ce qui se passe avant, c'est-à-dire des cultures maraîchères, etc. On explique aussi. Aujourd'hui, on est tellement connecté que même quand on habite en zone rurale, c'est pas si compliqué de se documenter, de se renseigner sur ce cercle vertueux en matière d'alimentation qu'on peut construire autour de soi, dans sa région, dans son département.
C'est peut-être même plus simple dans les cercles ruraux, d'ailleurs.
Oui, en plus, voilà. On s'est forgé une conviction aussi très nette que le bio n'est pas la panacée. Attention, on n'est pas en train de dire c'est n'importe quoi. Pas du tout. On a essayé de comprendre ce qu'était le bio, la nourriture bio, par exemple. On aime bien partir d'exemples concrets parce que ça parle aux gens qui nous écoutent. Quand vous avez un produit dans un supermarché, il y a écrit bio dessus, c'est intéressant de se pencher justement sur l'étiquette et de voir que peut-être dedans, il y a un ingrédient bio et encore, vous ne savez pas bio quoi, comment il a été cultivé, voilà. Et vous pouvez voir aussi autour que dans l'étiquette, il y a plein de cochonneries. Pour nous, c'est pas un produit bio. Voilà, même s'il a pu obtenir un certain label, etc. Bio, il y a des choses qui sont très importantes de consommer bio. Là, je me place du point de vue de notre santé. Comme les légumes et les fruits crus. Après, quand vous cuisez vos légumes à 100 degrés, ça n'est pas nécessaire de les acheter bio. Si c'est plus cher.
Il ne faut pas boire l'eau de. Voilà, c'est ça si dépend. On les fait à la vapeur.
À la vapeur, oui, mais vous pouvez les faire aussi à l'eau, mais vous jetez l'eau ensuite.
Ouais. Voilà. Après, ça dépend aussi les. Enfin, on ne va pas faire tout un truc sur la cuisine, mais c'est vrai que par exemple, le raisin, c'est hyper pollué, les framboises un peu moins.
Oui, donc, les pommes, les tomates. Ouais. Alors, moi, par exemple, je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'adore manger bien, sain, des produits de saison. Et alors, moi, c'est très simple, je ne cuisine quasiment pas, mais j'achète des bons produits. Je les coupe en. Mais non, mais en fait, je les coupe en petits morceaux, je fais des petits bols, même pour mes enfants, et donc on se retrouve avec un petit bol de pommes de maison, une petite assiette de bon jambon sans nitrite, c'est-à-dire qu'il est un peu gris, mais qu'est-ce qu'il est bon, et un peu de panais en purée, voilà, ça je sais faire quand même de la purée, ça m'a pas coûté très cher, c'est hyper bon, il y a plein de saveurs différentes, d'accord, c'est pas de la grande cuisine, mais c'est bon.
Mais ça fonctionne.
Et donc ça fonctionne, pas besoin de se mettre au fourneau 12 heures par jour, on est pas beaucoup à avoir le temps de cuisiner quand même. Hein.
N'est-ce pas? Et en partant de la cosmétique, vous êtes rapproché d'applications comme Yuka ou d'autres ou...
Alors on ne s'est pas rapproché, mais on les utilise d'ailleurs. Il y a Clean Beauty aussi qui marche très bien. Et c'est des applications qui ont fait leur preuve, qu'on peut utiliser facilement.
On explique aussi comment ça fonctionne, c'est-à-dire que Nutri-Score, etc. Enfin, on explique que ça ne donne pas d'indication à 100%, mais ça donne une indication. Justement, voilà, et un produit alternatif si ce qu'on est mal coté, mais ça donne une indication, c'est pas non plus. D'abord, quand vous dites on s'est rapproché, nous on a fait ça en toute indépendance parce qu'on a dit voilà, c'est peut-être pas le truc le plus dingue qui soit sur tous les critères, néanmoins, nous ça nous donne une indication et on trouve que c'est pas mal de faire nos courses avec ça. Voilà.
D'accord, mais pas d'utiliser que ça non plus.
Bah non, c'est pour ça, c'est pas pour vendre le guide, mais sinon on n'aurait pas travaillé autant pour ça. Mais c'est pour ça que ce guide, il est utile aussi, parce que nous, on veut rendre indépendants nos lecteurs.
Ouais,
quand on sait, on peut... Moi, maintenant, j'achète sans Yuka, je me débrouille très très bien, parce que je connais les bons conseils et ça permet de gagner du temps. Parce que moi, faire toutes mes courses avec mon téléphone à la main, franchement, ça me fait pas rêver. Ouais. Donc je comprends que ça soit hyper utile, mais je fais... Voilà, j'utilise de temps en temps quand j'ai un vrai doute.
Puis, ouais,
mais sinon, j'aime bien être indépendante, avoir le plaisir de regarder, sentir mes fruits et mes légumes et pas être collée à mon téléphone.
On précise d'ailleurs qu'on donne beaucoup de conseils, beaucoup de marques, beaucoup de produits qui sont exclusivement le fruit de notre expérience et de nos convictions.
Ouais, c'est pas des...
on est payé par aucune marque. D'ailleurs, on
c'est important de le dire.
Oui, c'est bien de le dire. Bon,
à chaque fois, on rédige un avertissement dans tous nos guides pour expliquer ça. C'est-à-dire que quand on donne un produit, c'est pour nous, c'est le meilleur dans ce domaine-là parce qu'on en a utilisé.
C'est ça. Donc là, on a parlé d'alimentation, beauté. Les autres segments, c'est les animaux domestiques.
On a parlé de la maison aussi avec
la
les animaux de compagnie. Moi, j'ai découvert quelque chose en travaillant là-dessus, c'est que il faut vivre en bonne harmonie avec les animaux. Donc, ça passe par notre hygiène vis-à-vis d'eux et leur hygiène vis-à-vis de nous. Ça a l'air idiot, mais moi, j'ai jamais eu d'animaux de compagnie et j'ai compris ça en fait. En travaillant là-dessus.
Est-ce que toi, tu as des animaux de compagnie, Denis ? Non plus ?
Non, j'ai des enfants, ça s'en rapproche parfois, mais...
Mais alors, pourquoi vous avez traité cette partie-là, du coup ?
Bah parce qu'il y a plusieurs... Il y a plus de 60 millions d'animaux de compagnie. Donc,
incroyable, oui.
Donc, évidemment, on a pensé à toutes les femmes, les tous les hommes, tous les couples, toutes les familles qui ont des animaux.
Parce qu'effectivement, c'est marrant, moi, j'ai pas d'animaux de compagnie non plus, donc on est parfaits tous les trois. Mais néanmoins, je suis un petit peu intéressé à la question quand même, et c'est vrai que pendant toute une période, on donnait les restes aux animaux de compagnie. Et en fait, il y a eu toute cette industrie qui s'est créée avec des croquettes, des machins, des trucs. Et finalement, on se rend compte que ce qui est pas mal, c'est de leur donner les restes. Finalement, ça coûte quand même vachement moins cher.
Oui et non.
Dis-moi.
Attention.
D'abord, pour les animaux de compagnie, c'est exactement comme nous. C'est moins mais mieux.
D'accord.
Voilà, donc, c'est la première chose. Deuxièmement, en fait, la seule différence, c'est que si vous voulez faire une ration ménagère quotidienne, c'est-à-dire des produits frais, de la vraie cuisine pour vos animaux, il faut vraiment être sûr de votre coût. Si vous n'êtes pas vraiment sûr de votre coût, il vaut mieux acheter de la nourriture industrielle, mais dans certaines marques d'ailleurs qu'on recommande, et qui sont beaucoup plus... qui sont meilleures pour la santé, plus écologiques, etc.
Pourquoi c'est compliqué ? Dis-moi.
Donc, pas des restes. Plutôt pas des restes humains.
Il faut très très bien connaître son animal, parce que d'abord, vous donnez pas la même chose à un Yorkshire qu'à un berger allemand.
C'est sûr.
Oui, mais il faut vraiment le savoir. Enfin,
vous n'aurez jamais d'animal de compagnie, Grégory. Vous êtes trop mal parti. Je suis désolée, mais
donc il y a des choses qu'il faut savoir. Des aliments qui, comme nous, font plus de bien que d'autres. Et ça, c'était assez amusant parce qu'on a travaillé avec des vétérinaires. Et bon, ça m'a ouvert plein d'horizons. Je dis pas que je vais avoir un animal de compagnie demain, mais c'était intéressant de je comprends mieux en fait les gens qui en ont et qui ont un rapport extrêmement fort avec leurs animaux. Voilà.
Ah ben ça crée, ouais, c'est aussi en lien avec la solitude que génère la ville, je pense. Enfin pas que la ville d'ailleurs, parce qu'il y a des animaux de compagnie, tout le monde en a à peu près, mais.
C'est vrai.
Mais
sauf nous trois, donc.
Ouais, sauf nous trois. Donc, nous ne sommes pas des bons exemples. Mais
c'est parce qu'on habite une grande ville et qu'il y a tellement beaucoup de monde et beaucoup de... Non ?
Non, parce que la ville
rend
seule.
On peut être seul dans
la
ville.
Non, la ville rend
seule,
c'est surtout que la ville rend seule. C'est même inverse. Donc, on a traité trois ou quatre. C'est quoi le sujet, le dernier ?
Les enfants.
J'ai pas d'enfants, donc racontez-moi.
Ah, les enfants, il y a tellement de choses. Par exemple, ça c'est une des alertes qui a fait qu'on a eu envie de faire ce guide aussi naturel pour le meilleur et pour le reste. Parce que par exemple, ça ne vous a pas échappé Grégory, il y a eu plein de une sur « attention, les couches pour enfants sont bourrées de pesticides et de produits nocifs ». En effet, à peu près 60 produits, substances indésirables dans une couche. Ça va du glyphosate en passant par le blanchiment au chlore... en passant par les lotions, les parfums, tout ça sur les fesses et le sexe de votre enfant. Faut savoir que l'urine, avec l'urine en plus, migre. Et on s'est dit, d'accord, mais on va pas... Les couches lavables, c'est sympa, mais le problème se pose aussi, parce que dans une couche lavable, il y a de la cellulose qui recouvre le petit tissu. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement ? Et on a testé... Alors là, je l'ai fait je l'ai fait véritablement, puisque j'ai eu un bébé il y a un an. Donc, j'ai testé sur lui pas mal de couches. Évidemment que je savais non nocives, mais il fallait trouver des couches bio, mais qui permettent de retenir évidemment les fuites, tout sans empoisonner mon petit. Et on a fini par trouver les règles. Alors, vous verrez dans le guide, il y a des marques bien sûr très précises, mais si vous voulez être indépendant, pas blanchi au chlore, mais à l'eau oxygénée. c'est moins irritant. Pas de lotion, c'est hyper allergisant. La couche n'a pas besoin de sentir bon, elle sentira mauvais de toute manière. Hein. Donc elle ira à la poubelle.
Généralement, oui.
On est d'accord. Et du cellulose, de la cellule, qui vient en fait de forêts gérées durablement. Donc a priori sans pesticides et sans risque, sans glyphosate pour les fesses de votre enfant. Voilà. Et donc ça, c'est multiplié par 100 parce qu'il y a les meubles dans la chambre de votre enfant, il y a les vêtements, il y a plein de choses. Et on s'est rendu compte que ce chapitre enfant, Kids Club, était vraiment important parce qu'on a, on a peur pour eux parce qu'ils sont particulièrement sensibles. Par exemple, tiens, autre exemple, quand les enfants ont des poux, on leur met souvent de l'huile essentielle de lavande derrière les oreilles, vous savez, pour les éloigner. C'est une énorme erreur. Dermatos et allergologues disent qu'en fait, la peau est si fine que les huiles essentielles qui sont naturelles contiennent quand même des perturbateurs endocriniens qui viennent abîmer le système hormonal des enfants. Donc ça, on ne le fait pas. En fait, on se choisit un insecticide, un anti-poux qui n'est pas naturel du tout. On fait des écarts, on l'a dit. Mais au moins, les poux, ils restent une semaine et ils disparaissent. Voilà. Et pas besoin de mettre de l'huile de lavande. Vous voyez les paradoxes, mais on les donne aussi.
Mais on fait attention parce qu'on explique aussi qu'à ce jour, alors scientifique, pour confirmer tout ça, évidemment, les crèmes solaires protectrices pour les enfants comme pour les adultes, à ce jour, force est de constater que les non-bio protègent beaucoup mieux que les produits bio. Voilà.
Les filtres chimiques plus que les filtres minéraux pour l'instant.
Et en même temps, on s'est dit, de toute façon, a priori, combien de fois par an on se tartine de crème ? Pas tous les jours, 365 jours par an, 4 fois par jour. Donc on s'est dit, ça vaut quand même la peine de conseiller sérieusement et scientifiquement des crèmes solaires normales, entre guillemets, pour le moment, traditionnelles.
Et vous avez mené la réflexion, typiquement sur les crèmes solaires, sur ensuite la pollution de l'eau une fois qu'on va dans la mer, ou vous êtes arrêté à la protection de la peau ?
Pour tout dire, on s'est arrêté à la protection de la peau, en ce sens que
on attend que plus personne
d'un mélanome,
des produits chimiques et des plastiques dans la mer, déjà.
Je pense que se préserver d'un mélanome, c'est quand même capital, et tous les dermatos disent que c'est indispensable. Donc déjà, alors si on veut penser à la planète, eh bien on ne s'expose pas de 11h à 17h, donc on ne met pas de crème solaire de 11h à 17h, et on ne va pas se baigner de 11h à 17h, on peut faire ça. Ou alors, s'il y a une autre solution, et ça on en parle aussi, c'est vrai, c'est de mettre des vêtements anti-UV. Mais quels adultes ont très envie de ne pas mettre leur super maillot et de mettre un vêtement anti-UV ? Les enfants le font plus facilement, et donc c'est assez limite, évidemment.
Ouais, c'est vrai. Et dans le sujet qu'on traitait juste avant, qui était les couches, par exemple, ou mais aussi les produits ménagers. Enfin, à tous les niveaux, finalement, il y a toujours cette dichotomie entre ce qui est bien. En fait, les gens le font quand même souvent comme ça, c'est-à-dire qu'ils le font pour eux en général. C'est-à-dire que quand on mange bio ou quand on mange quand on mange bio, d'ailleurs, c'est plutôt pour nous. Quand on mange local, c'est plutôt pour l'environnement. Parce que bio, t'en as pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette logique de se dire, des crevettes bio, elles peuvent arriver de je ne sais où, et donc elles ont un coût écologique
sûr, nous,
important.
On est très favorable à l'alimentation, à se nourrir local, circuit les plus courts possibles, manger évidemment des fruits et des légumes de saison, ça c'est évident pour nous.
Mais c'est vrai que Grégory, t'as raison, on part de nous souvent, mais parce qu'on est ethnocentré, parce qu'on est des humains et qu'on pense d'abord à nous. Alors il ne faut pas culpabiliser si, en fait, en se faisant du bien et en se préservant, on fait du bien à la planète. C'est un bon prisme aussi pour commencer à prendre soin de cette planète.
Non, mais évidemment. Et de toute façon, c'est en général, à partir du moment où tu commences à prendre soin de toi, tu vas naturellement prendre soin des autres et de la nature. C'est souvent le premier. C'est pour ça que le développement personnel, même si c'est une démarche qui est très égocentré en général, au moins individualiste en tout cas, elle t'amène de manière assez naturelle à l'ouverture aux autres et à la nature.
Bien sûr. Logiquement. Après, on a tous des engagements à géométrie variable. Hein. C'est-à-dire nous, on adore, moi j'aime bien, j'ai toujours aimé que ça sente bon chez moi, j'adore les parfums d'intérieur, j'adore les bougies parfumées, etc. En réalité, c'est très très mauvais, on l'explique dans le
livre. Il y a des bougies qui
sont
dans le livre.
Moi j'ai horreur de ça, et maintenant je suis fière de dire, moi je n'en ai jamais eu.
Moi j'aime bien les bougies aussi, mais tu sais, il y a des bougies sans paraffine.
Donc maintenant, moi, je me suis tournée vers des bougies
au miel notamment
écolo, voilà.
Parce que ça pollue.
Avec des mèches en bois qui brûlent différemment,
fines, etc. Particules fines, composés organico-volatiles, très allergisants pour les poumons, les voies respiratoires, un minimum.
Il y a eu quelques années, il y a eu une enquête très sérieuse sur les pesticides et les produits chimiques de l'agroalimentaire, et ils ont ils ont analysé des échantillons de cheveux d'enfants. Nés 20 ans après l'interdiction de certains pesticides dans la communauté européenne. Ouais. Les cheveux de ces enfants ont révélé des traces de ces pesticides.
Ouais.
Voilà. Donc, nos maisons sont, je ne sais pas, par exemple, pour les gens qui sont locataires, ce qui est mon cas, vous arrivez dans un appartement qui est évidemment riche, je mets le mot entre guillemets, de tous les produits qui lui sont passés dessus par le bois des parquets.
Peintures.
Mais il y a une solution.
Les peintures. Alors, il y a une solution, c'est que vous pouvez évidemment, hors horaire...
Tout racheter.
Non, quelque chose de moins cher. Vous aérez 10 minutes par jour, le matin, le soir. Ça, c'est un réflexe absolu, hiver comme été. Alors, sauf quand il y a des très gros pics de pollution l'été et de chaleur. Mais même l'hiver, et l'hiver, c'est très agréable, moi, je trouve. Évidemment, vous essayez d'éviter les 10 minutes où il y a un embouteillage dans votre rue, évidemment, parce que ça, c'est pas terrible.
Non.
Mais je pense qu'il y a des choses très, très... Enfin, quand je dis on a des trucs à géométrie variable, c'est vrai. Moi, je connais des femmes qui sont à fond sur le bio, machin, etc., qui travaillent à 3 stations de métro de chez elles et qui prennent la voiture 40 fois par jour pour faire des petits trajets, etc. Moi, il y a un jour, j'étais une vraie citadine avec voiture et je faisais partie de ces femmes-là qui prenaient la voiture pour un oui, pour un non. J'ai arrêté du jour au lendemain la voiture, je l'ai vendue, je m'en suis débarrassée et qu'est-ce que c'est mieux ? D'abord, je suis plus libre, je suis toujours à l'heure, beaucoup plus que quand j'avais une voiture. Et finalement, ça change rien, mais ça change tout. Voilà.
Bien sûr. Ah non, mais ça, c'est des éléments importants.
Non, je riais parce que c'est un peu comme les bougies d'intérieur. Moi, j'ai pas de voiture parce que je n'aime pas conduire. Maintenant, je fais la maline. Oui, moi, j'ai pas de voiture.
Mais tu as ton permis.
Oui, j'ai mon permis, mais j'ai jamais vraiment conduit.
Et alors, ce podcast s'appelle Vlan.
Oui.
Donc, je veux savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte. Peut-être l'une après l'autre. Ou s'il y en a une qui veut faire l'ouverture, l'autre la fermeture, je ne sais pas, c'est comme vous voulez.
À quoi je voudrais ouvrir la porte ?
On peut faire un demi-blanc.
c'est quoi
un demi-blanc ?
Non, c'est que je pense vraiment dans tout ce qu'on vient de se dire, qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme on fonctionne, parce qu'un jour, ça ne sera plus tenable. Mmh. Et je pense qu'il y en a qui prennent conscience de ça, des patrons qui s'engagent. Je pense que l'entreprise doit aussi prendre sa part.
Bien sûr.
Voilà.
Donc toi, tu ouvres la porte à ça ? C'est ça.
Bah, c'est-à-dire, je veux dire, voilà, il y a des entreprises et des patrons qui entrent dans ce cercle plus vertueux.
Et c'est indispensable.
Et je pense que c'est absolument capital. Donc, j'ouvre la porte à cela et je dis Vlan à ceux qui n'en ont pas encore pris conscience. Ça va, j'ai bon.